Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique économique finance vérité d'aujourd'hui, numéro 8, a pour titre la banque, au sens général, au service du syndicat du crime mondial. Dans l'actualité économique, j'observe deux choses. Première chose, Monsieur Michel de Poncin a stigmatisé l'autre jour l'opération de désinformation mondiale à propos du supposé dérèglement climatique global de responsabilité humaine. Cette escroquerie intellectuelle couvre aussitôt l'escroquerie économique et financière. Je voudrais l'illustrer par un petit exemple. Tout d'abord, je note pour ma part qu'il n'y a pas un climat, mais des climats sur Terre. Nous avons tous appris, au temps où l'on apprenait encore quelque chose en classe de collège, à distinguer les climats, tempérés, tropicales, méditerranéens, océaniques, les régimes des moussons, des pluies, des déserts, des fleuves, etc. Nous savons parfaitement maintenant que les masses anticycloniques de l'atmosphère terrestre, par les satellites, comme par exemple l'anticyclone des Açores, sont permanentes et grossissent ou rétrécissent suivant les saisons. Il ne peut donc pas y avoir de dérèglement, de réchauffement ou de refroidissement climatique global. C'est un pilote d'avion confirmé qui vous le dit. Nous savons depuis la classe de 5e qu'il y a sur Terre des conditions dites normales de température et de pression atmosphérique, lesquelles conditions normales varient très peu au fil des dizaines de millions d'années. La seule chose qui peut varier est la température sur certains points de la Terre à cause de la variation de la planète sur son axe de rotation selon des cycles multimillénaires dont le principal est de 23 000 ans, je répète, au bout duquel nous arrivons progressivement au cours de notre millénaire. L'exposition au soleil s'en ressent évidemment et les pôles géographiques changent de place. La glaciation menace des zones tempérées jusque-là et inversement. Par exemple, la Bourgogne, il y a 250 000 ans, était de climat tropical, comme je l'ai rappelé dans ma tournée des Grands-Ducs et de l'histoire du vin. L'économie suit. La grande mode lancée depuis 30 ans des énergies dites alternatives aux énergies fossiles, elle-même d'origine solaire, ou encore nouvelle, voire douce pour le climat de notre petite planète, comme on le voit sur ces petites étiquettes de boîte aux lettres, a permis la création d'entreprises de fabrication de panneaux solaires remplis de cellules photovoltaïques, retombées de la technologie spatiale, et qui transforment avec un rendement très faible le rayonnement lumineux du soleil en électricité. La grande escroquerie économique et financière réside dans le montage suivant. Le fabricant facture très cher un produit rustique, au départ à base de mica et d'oxyde de fer, à la limite maximale de la rentabilité possible comparée au prix de l'électricité de l'EDF, qui sort fort cher. Ensuite, des entreprises commerciales, filiales du fabricant, prétendent faire opérer une bonne affaire à des gogos en leur vendant que l'acquisition à ce prix maximum des mètres carrés de panneaux, mais cela on ne leur dit évidemment pas, sera remboursée par l'économie de courant EDF en 10, 15 ou 20 ans, alors qu'il suffirait de ne les acheter qu'à leur prix vrai pour faire une économie immédiate. En fait, la grosse astuce, consiste donc à leur piquer la totalité de tout ce qu'ils paieront en courant électrique sur le long terme, et tout de suite. En détournant ainsi d'EDF et pour longtemps, les clients potentiels qu'elle s'est créée par plus de 60 ans de totalitarisme collectiviste au profit du système oligarchique mondial libéral, mais tout aussi totalitaire que l'autre. Le gogo reste le gogo. Faut surtout pas le détourner de son statut. Toutes les énergies alternatives s'avèrent donc non rentables pour les investisseurs gogo pour la seule raison que les matériels sont vendus beaucoup trop cher. Il suffit de regarder les comptes. Bien dissimulés, c'est vrai. Je rappelle que les ressources de la Terre appartiennent à tous ceux qui en ont besoin pour vivre. Elles sont données par le Créateur à tous et nul n'a le droit de se les approprier. Seul le travail peut exiger rémunération à la hauteur de sa valeur, le fainéant devant rester pauvre. la hiérarchie économique ne devrait pas dépasser la hiérarchie des valeurs vraies. Voir à ce sujet mon blog http://www.serviteurdubienpublic.blogspot.com. Dans un autre domaine, ma deuxième observation est que les agents économiques sont également escroqués par la violation systématique des règles, pourtant signées dans les traités internationaux, bi ou multilatéraux, de la concurrence libre, ou encore consignées dans nos codes civils, code de la consommation, code monétaire et financier, code pénal et d'autres. Ici, c'est une véritable mafia qui s'est emparée du marché du gaz en France. Des citernes sont installées chez les gens qui ne peuvent être ensuite remplies que par une seule société, celle qui vend et installe la citerne, moyennant dépôt de garantie et contrat d'asservissement à son contrôle à vie. Une citerne Butagaz, par exemple, ne peut donc être remplie que par Butagaz. Le client devient captif. Alors que normalement, une citerne de gaz devrait pouvoir être remplie avec du gaz de n'importe quel fournisseur, au choix du client, suivant le meilleur rapport qualité-prix qu'il observe à tel moment. Tout comme un réfrigérateur peut être rempli au gré de la ménagère. Imagine-t-on un réfrigérateur qui ne pourrait être rempli que par un seul supermarché qui posséderait les clés de remplissage ? Cette concurrence garantirait la liberté des consommateurs et des prix du gaz aujourd'hui complètement maqués. Au contraire, les malheureux clients de ce jour sont obligés, sous la menace de manquer de gaz, de signer de pseudo-contrats avec Butagaz ou un autre, qui sont autant d'escroqueries. Jugez-en. Obligation de signer le contrat sans pouvoir en modifier une virgule. Obligation de signer une autorisation de prélèvement en blanc accompagnée du RIB, même si on choisit un autre moyen de paiement. Obligation de fournir des photocopies recto verso de toutes les pièces d'identité des personnes vivant dans le logement alimenté en gaz et signataires du contrat. Obligation de photocopier les 40 pages de votre bail si vous êtes locataire ou de votre titre notarié si vous êtes propriétaire. Bref, tout ce qu'il faut à Butagaz, par exemple, pour débiter directement votre compte de n'importe quel montant à n'importe quel moment et donc de vous escroquer avec votre accord en plus signé. Il est vrai que cette signature, arrachée sous la menace et par contrainte, n'a donc aucune valeur juridique, puisqu'ouvertement, ils vous disent que vous n'avez pas le choix. Comme par hasard, les concurrents font la même chose et le marché est complètement sclérosé par l'appropriation par ces compagnies de votre libre arbitre. Il y a donc évidente entente et même cartélisation en violation du code civil qui les interdit pourtant. Qui plus est, si vous avez le malheur de refuser le prélèvement automatique de votre facture et de préférer payer par CB, chèque ou même en espèces, pourtant libératoire, Butagaz prétend vous faire payer un supplément de 10 ou 20 euros, alors que ses moyens de paiement sont libres de droit et n'emportent aucun coût pour Butagaz, sauf à présenter à sa banque à l'encaissement les chèques reçus, ce qui est quand même la moindre des choses. De plus, les paiements par CB, Visa ou autres cartes de paiement doivent être sans frais pour les clients par contrat avec les banques. Et quant aux espèces, moyen de règlement définitif et parfait juridiquement, puisque ne comportant plus aucun risque de non-paiement ou d'immobilisation, Butagaz est non seulement obligé de les accepter sous peine d'amende et même de prison dans l'ancien code pénal de 2004, mais n'a pas le droit de vous faire payer quoi que ce soit comme frais qui incombe à l'entreprise dans le cadre de la gestion courante de sa caisse. Même que dans le temps, quand le système était encore honnête, le règlement comptant en espèces valait au client en général une réduction, une remise ou un escompte de 2% de la part du fournisseur, alors reconnaissant. Bref, la mainmise de la mafia et du syndicat du crime sur le marché du gaz en France se traduit par une escroquerie généralisée sur les malheureux clients captifs, avec la complicité du système de paiement réputé moderne, aux seuls soins bancaires, en dehors de toute décision des gens pourtant réputés majeurs et ici placés de facto sous sa tutelle par le système. Dans ce dernier cas, très illustratif de la généralisation de la pratique dite du prélèvement automatique, bizarrement siglé chez Butagaz par PO, pour prélèvement obligatoire sans doute, est appuyé sur la supposée existence d'un compte en banque qui tente à être imposé de force, depuis 25 ou 30 ans, par le biais des exigences maintenant illégales, pourtant des entreprises gouvernées par la même secte noire que les banques. Nous voyons clairement apparaître l'esclavage qui nie toute majorité, responsabilité et maîtrise de leurs affaires par les gens. Mon conseil patrimonial du jour va donc être très rapide. Il découle de ce que je viens d'observer. Il est évident, premièrement, qu'il faut éviter comme la peste les investissements généralement présentés comme mirobolants par les sociétés commerciales vendeuses de parts sociales d'entreprises, d'installations de panneaux solaires, d'éoliennes ou autres. Et investissez, si vous en avez la possibilité, plutôt dans des trucs simples qui vous procureront une réelle économie palpable et directe dans votre portefeuille. Par exemple, une pompe de 1500 watts tournant à l'envers, comme tout moteur électrique peut le faire, entraînée par un courant d'eau ou à pédale, grâce à une roue à aube facile à bricoler ou avec une chaîne, va vous délivrer en permanence 1,5 kW, donc 36 kW par 24 heures. Comparez donc avec les 1 ou 2 kVA ou kilowatts assurés en tout par 24 heures comme rendement d'un panneau solaire durant seulement 6 à 10 heures par jour de soleil. Dans les deux cas, vous pouvez les stocker dans des batteries ou les revendre à EDF en faisant tourner votre compteur à l'envers. Ou, bien sûr, les consommer sur place, comme les pizzas. Quant au gaz, deuxième observation, en vrac, en citerne, s'il est moins cher que le gaz en bouteille, il vous lie à vie à un fournisseur mafieux qui vous assure que le prix restera fluctuant et à sa seule dévotion d'un produit dont il se garde de garantir les qualités, le pouvoir thermique, etc. Donc votre liberté de choix à tout moment a un coût, comme toujours. La liberté doit se défendre tous les jours, elle n'est pas gratuite, sinon au bout de peu d'années, on devient esclave. On en est là. Ce qui me précipite dans mon histoire de la monnaie, dans son chapitre 8, est pour tenter d'examiner les liaisons monnaie-économie, j'ai choisi de me concentrer sur la période du règne de Philippe IV, dit le Bel, lequel laisse une impression historique exactement opposée à celle de son grand-père, Louis IX. Philippe IV est qualifié de faux monnayeur et il est diabolisé dans les livres en général, tandis que Louis IX est sanctifié. Si Louis IX n'avait fait que rendre au peuple une pièce de monnaie de qualité, il ne mériterait quand même pas sa canonisation et sa béatification. Il eut évidemment d'autres qualités comme la principale, le souci permanent du règne de la justice. Philippe le Bel ne mérite pas du tout non plus la diabolisation dont il est victime, à cause de la dévaluation de la petite monnaie dont on a vu précédemment qu'elle est presque impossible à éviter dans certaines configurations économiques internationales et nationales. Le règne de Philippe le Bel est à bien des égards comparable historiquement au XXe siècle et à son prolongement actuel. Outre la constante historique des effets dévaluateurs de la monnaie, des guerres à répétition partout dans le monde, tour à tour embrasées complètement ou partiellement, nous constatons que le poids démographique a agi pour détruire la valeur de la circulation monétaire, faute d'avoir compris, sans doute, le sens exact de la monnaie. Mais ça, on essaye de l'expliquer au fil des chapitres. De nos jours, la monnaie métallique a littéralement sauté depuis 1935 en France, laissant la place au papier monnaie d'État, qui est en train de sauter à son tour au profit de l'électron, mis en ligne par l'usine à monnaie virtuelle bancaire, dont il constitue les petites cellules grises, aussi bien des dirigeants que des ordinateurs. Au moins, Philippe le Bel résista. Il défendit son peuple. Il faut dire que le monde n'était pas encore peuplé de 8 milliards d'humains, mais seulement de 700 millions, dont tout de même 16 millions rien qu'en France, qui devient sous son règne le mastodonte démographique de l'Europe, dont Paris est alors la plus grosse des capitales. De grands travaux d'urbanisme deviennent nécessaires et on doit à Philippe le Bel les égouts de Paris encore utilisés de nos jours, soit 6 siècles plus tard. L'État s'implique alors de plus en plus dans l'économie générale. Les villes nouvelles dans le grand sud-ouest appelé Bastide participent également à l'évolution constatée en Silésie ou en Piémont par exemple. Tous ces grands travaux, les plus grands d'Europe, impliquent la nécessité de mettre beaucoup plus de pièces de monnaie en circulation. Pour mettre en circulation plus de pièces, il faut plus de marques, comme on l'a vu la dernière fois, donc plus de métal pur, noble et à fondre. En l'occurrence, il faut disposer de plus d'argent pur à 24 carats, soit 100% ou encore 1000 millièmes de fin. Comme ce métal est demandé par le trésor, son prix de matière première tend à augmenter. Sa rareté s'accentue par la spéculation et la thésaurisation, privant d'autant la circulation générale qui, pour être maintenue et même augmentée, doit assécher les productions possibles conduisant à la nécessité d'importer de l'étranger, alors les Indes. Les Indes ne connaissent pas l'or à l'époque, mais regorgent d'argent pas cher. Le roi fait donc acheter des navires pleins d'argent métal pur avec de l'or, très coté évidemment aux Indes puisqu'il y était très rare. À chaque aller-retour, le commerce rapporte 30% net de tout. La spéculation des grands armateurs vénitiens se déchaîne. Les Médicis s'enrichissent effrontément. Voilà l'origine de la fortune que François Ier tentera de ramener à la France par mariage, par exemple, avec la célèbre Catherine, dans sa famille. Devant des difficultés toujours actuelles, car la monnaie papier ou même bancaire est contrainte de la même façon par l'endettement en contrepartie. Le roi ne dispose de 1285 à 1314 que des moyens antiques. La frappe d'alliage, de moins en moins précieux, sans pouvoir émettre de monnaie papier empruntée aux banques à la hauteur imposée. Philippe IV dut donc, contraint et forcé, mettre en circulation des petits deniers destinés aux échanges populaires courants en dévaluation de moins 13% selon mes calculs. Il dut aussi imposer le premier contrôle d'échange de l'histoire en interdisant la détention de monnaie étrangère. En effet, les banquiers s'engraissaient avec les différences de poids relatives des pièces diverses sur le dos de l'ignorance des gens, donc sur la tromperie et l'escroquerie. Toujours la même histoire. Le peuple gronda au point que l'excellent et honnête ministre Enguerrand de Marigny dut plus tard être sacrifié par les descendants de Philippe le Bel sur l'autel de la sauvegarde du régime. Pourtant, la monnaie dite noire de Philippe le Bel, la fausse, ne toucha que cette petite pièce. Jamais le gros de Saint-Louis ne fut touché. L'affaire fut compliquée des malversations gigantesques des Templiers qui provoquèrent alors un tel scandale financier à côté duquel les Kerviel, les Sociétés Générales ou Enron ne sont que des broutilles, que le pape dut les condamner et exiger du roi de France, chef de l'exécutif, qu'il les mette à mort, conformément au droit canon, en partie d'origine romaine. Le roi ne s'est pas fait prier, car il avait lui aussi un contentieux avec le temple. Le trésor royal qu'il lui avait confié avait été détourné au bénéfice des besoins du temple, qui se révélait incapable de le rendre. Et ce, en pleine crise économique, monétaire et sociale. Philippe le Bel dut donc se battre sur tous les fronts, démographique, urbanistique, économique, étatique, international, monétaire, bancaire et fiscal. Cela l'obligea à entamer une procédure qui depuis a fait école. L'impôt sur le peuple, tous les ans. Il prétexta alors des guerres nécessitant la levée de l'ost pour justifier l'impôt à répétition dans le cadre des lois fondamentales du royaume qui n'autorisaient que les guerres comme motif à impôt. Tous les 10 ans, il imposa en sus sur la fortune les plus riches du royaume qu'il tailla, c'est le cas de le dire, et tous les 10 ans, la taille rapporta autant que l'impôt courant pendant 10 ans. Les juifs furent évidemment les plus taillés compte tenu de leurs pratiques usuraires connues à l'époque. On parle donc de taille sur les juifs chez la plupart des historiens, un peu excessif ou tendancieux. Et cet impôt était très populaire, évidemment. Philippe le Bel ne faisait d'ailleurs qu'appliquer, intelligemment, l'édit de 1269 de Saint-Louis de manière rentable pour le trésor d'État, adapter cette mesure aux circonstances. Voilà donc comment on se défend quand on gouverne, avec l'obligation de donner au peuple une monnaie de qualité malgré tous les obstacles. Seul le roi défendit donc la monnaie, la vraie, métallique, comportant une vraie valeur intrinsèque tout en faisant face à tous les problèmes. Démographie en doublement, grands travaux, guerre, spéculation, etc. La République, elle, a mis en circulation des milliers de pourcents de monnaie noire, privant le peuple d'une vraie monnaie et le réduisant en esclavage des usuriers bancaires au lieu de le défendre contre eux. Comme la monnaie argent fut alors doublée, comme depuis l'Antiquité d'une monnaie d'or, nous examinerons dans notre prochain épisode le rapport or-argent. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence. Vous pouvez également me poser des questions par l'intermédiaire du site de cette radio. À bientôt, bonsoir.